Radio Vatican, France et Afrique.
Amis auditeurs, bienvenue et merci d'être à l'écoute des Radios Vatican. Dans l'actualité de l'Église, dès cette nouvelle édition de notre programme, nous vous parlerons notamment de l'incident malheureux survenu dans les diocèses de Kisii au Kenya. Des personnes non autrement identifiées ont mis à feu l'église Sainte-Monique du village d'Otomba. Nous y reviendrons tout à l'heure avant de vous rendre compte de la vie de l'Église, famille des dieux qui est au Bénin, en Côte d'Ivoire et en République démocratique du Congo. Pour ce qui est de l'actualité sociopolitique africaine, nous nous rendrons notamment au Nigeria, en Centrafrique, en Sierra Leone, entre autres. À toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de Radio Vatican.
Radio Vatican, France et Afrique, Camille Moukosso.
La paroisse Sainte-Monique du village d'Otomba dans les diocèses de Kisii au Kenya a été incendiée par des inconnus. Un incident nocturne qui semble avoir visé l'hôtel Elambon a déclaré le directeur de la communication du diocèse, le père Arnold Maronga, appelant les responsables de l'incendie criminel à regretter leur acte malveillant et à demander pardon à Dieu. Le père Maronga a confirmé que les pyromanes, qui n'ont pas été encore identifiés, ont pénétré par effraction dans l'église paroissiale Sainte-Monique du village d'Otomba et ont rasé l'autel, l'ambon et les vêtements liturgiques. Le drame a été constaté dans la nuit du 19 janvier dernier, alors que de jeunes garçons venant de regarder le football ont vu de la fumée sortir de l'église. Les pyromanes avaient également pris d'autres vêtements de la sacristie et les ont placés sur l'ambon avant de les brûler. Selon le père Maronga, l'incendie criminel est probablement le résultat d'une certaine forme de radicalisation qui s'est produite dans la région, car des églises de différentes dénominations ont été également brûlées. Toujours au Kenya, le sœur de l'Institut de la Bienheureuse Vierge Marie, communément connu sous le nom des Loreto Sisters, ont célébré samedi 23 janvier dernier le centenaire de leur présence dans le pays. À cette occasion, le président Uhuru Kenyatta, leur ancien élève, leur a adressé un message de félicitations et de remerciements pour leur contribution des intérêts qu'il a qualifié comme un ministère chrétien incroyable. Le président Kenyatta, qui est un chrétien catholique, a fait remarquer que la contribution des membres de l'Institut kenyan est ancrée dans leurs anciens élèves qui comprennent un président de la République, des évêques, des scientifiques, des chefs de gouvernement, des universitaires et des juristes, des entrepreneurs, des sportifs de haute facture. L'archevêque d'Abuja au Nigeria, Monseigneur Ignatius Kaigama, a invité les fidèles chrétiens de son pays à rechercher une compréhension la plus profonde de la parole de Dieu et à se prémunir contre la mauvaise interprétation des saintes écritures. C'était au cours de la célébration eucharistique qu'il a présidé dimanche 24 janvier dernier, dimanche consacré à la parole de Dieu. Alors que nous, chrétiens, utilisons la Bible, prenons soin de noter son interprétation afin de ne pas laisser une mauvaise compréhension de celle-ci nous conduire à des conclusions ou à des pratiques fantaisistes, a déclaré Monseigneur Ignatius Kaigama. Selon l'archevêque d'Abuja, le résultat de l'écoute et de la parole des dieux est l'obéissance et la repentance. L'église de Côte d'Ivoire a célébré le dimanche dernier la messe conclusive des festivités marquant le 125e anniversaire de son évangélisation. Cette célébration eucharistique a coïncidé avec la clôture de la 117e assemblée plénière des évêques tenue autour du thème « Éducation en Côte d'Ivoire au service du développement humain intégral ». Complément d'informations dans ce reportage de notre correspondant local.
Le cardinal Jean-Pierre Coutois, président de la messe en présence du nonce apostolique Monseigneur Paolo Borgia, a traduit à Dieu toute sa reconnaissance pour les hommes d'hier et d'aujourd'hui, vaillants héros de l'évangélisation de notre pays qui ont contribué, grâce à leur générosité et leur esprit de sacrifice, malgré leurs limites et leurs faiblesses, à la croissance de l'église de Côte d'Ivoire. Une mission relayée aujourd'hui par un clergé local dont les efforts sont à saluer et encourager, sans oublier les religieux et religieuses et les catéchistes estimés l'archevêque d'Abidjan. Une œuvre à y voir de près comporte aussi, selon lui, de sérieux motifs d'insatisfaction, notamment sur le plan du développement humain intégral, appelant tous à une synergie d'action. Rendant public le fruit de leurs travaux au terme de leur 117e assemblée plénière au cours de cette messe jubilaire, les évêques palavoirs de Monseigneur Jean-Jacques Kofi Wakofi, évêque de San Pedro, ont dénoncé et condamné les violences qui ont émaillé le scrutin présidentiel d'octobre 2020, qui malheureusement a occasionné beaucoup de pertes en vies humaines, d'énormes dégâts matériels, souligne-t-il. Les archevêques-évêques de Côte d'Ivoire, dans leur déclaration, ont encouragé les Ivoiriens à continuer inlassablement à œuvrer pour la paix qui ne doit pas être considérée comme le simple silence des armes. Portant un regard sur les prochaines élections législatives, les prélats ivoiriens ont invité instamment, une fois encore, au respect scrupuleux des lois que nous sommes données et qui régissent notre nation. Au terme de leur message, les évêques ont imploré une nouvelle effusion de l'Esprit Saint sur la terre ivoirienne pour la conversion des cœurs. Marcel Ariston Blé, Grand Bassam, Côte d'Ivoire, pour Radio Vatican.
À l'issue de la deuxième session plénière ordinaire de la conférence épiscopale du Bénin, tenue à Cotonou, l'évêque d'Abomey, Mgr Eugène Cyril Oundékan, porte-parole de la conférence épiscopale du Bénin, a donné une conférence de presse. Les détails avec notre correspondant local.
L'évêque d'Abomey au Bénin, Mgr Eugène Cyril Oundékan, en charge des masses médias au sein de la conférence épiscopale du Bénin, porte-parole des évêques, a donné le vendredi 22 janvier 2021 au siège de leur institution une conférence de presse à l'issue de la deuxième session plénière de leur conférence tenue du 19 au 22 janvier à Cotonou. Les journalistes ont été ainsi informés des diverses questions d'intérêt commun ayant fait l'objet de leur session, dont notamment
le retour au pays de son Excellence Mgr Marcel Agboton, archevêque émérite de Cotonou, le 160e anniversaire de l'évangélisation continue du Bénin et le 10e de la visite du pape émérite Benoît XVI au Bénin avec la publication de l'exhortation apostolique post-synodale Africae Munus. Sur le plan sociopolitique, la conférence épiscopale du Bénin déplore une fois encore le déploiement d'une certaine rhétorique visant à banaliser ou même à déconstruire les acquis de la conférence des forces vives de la nation de février 1990.
Et pour une énième fois, les évêques ont recommandé vivement pour l'élection présidentielle d'avril 2021 au Bénin
que tous les partis politiques et les institutions impliquées dans l'organisation du scrutin dialoguent franchement en vue d'une élection présidentielle pacifique, réellement inclusive, démocratique et transparente.
Guy Dosuyovo, Cotonou, pour Radio Vatican.
Rendons-nous en République démocratique du Congo où notre correspondant local nous rend compte de l'ordination presbytérale dimanche dernier de deux missionnaires comboniens par Mgr Julien Andavo, évêque d'Isiro Niangara.
L'évêque d'Isiro Niangara dans la province du Haut-Ouélé, Mgr Julien Andavo Mbia, a ordonné prêtre le dimanche 24 janvier les missionnaires comboniens Blaise Biangbali et Maurice Malema. La messe d'ordination a eu lieu dans l'église de la paroisse Sainte-Anne d'Isiro, paroisse d'origine des deux nouveaux prêtres. Soyez les témoins fidèles de l'évangile qui rassemble le peuple de Dieu autour du Christ. Nous prions pour que le Seigneur Dieu mette toujours dans votre cœur la joie de le servir fidèlement tout au long de votre vie. Exhortation et souhait de l'évêque pour les nouveaux prêtres. Les pères Blaise Biangbali et Maurice Malema ont demandé à l'Assemblée de continuer à prier pour eux afin qu'ils continuent à aimer et à servir le Seigneur dans les pauvres, comme Saint Daniel Comboni, le fondateur de la Congrégation des missionnaires comboniens du cœur de Jésus. Les nouveaux prêtres ont aussi invité en particulier les jeunes à être conscients de la responsabilité qui est la leur pour le meilleur avenir aussi bien de l'Église que du pays. Le supérieur provincial des Comboniens, le père Léonard Ndjadi Ndjate, présent à Isiro, a remercié le Seigneur pour le don des nouveaux prêtres. Il a loué le sens des collaborations pastorales de Mgr l'évêque Julien Andavo Mbia et il a prié pour les nouveaux prêtres.
Qu'ils soient des personnes de communion, enracinées dans le charisme combonien et disponibles à servir le plus pauvre et le plus abandonné.
Jean-Baptiste Malenge Kalunzu pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Les forces armées ougandaises se sont retirées mardi des bords de la maison des Bobi Wine au lendemain d'une décision de justice qui ordonnait la fin de l'assignation à résidence de l'opposant. Monsieur Wine Robert Nyangulai, de son vrai nom, était bloqué chez lui depuis l'élection présidentielle du 14 janvier où cet ancien chanteur devenu député a fait figure de principal opposant au président sortant Yoweri Museveni. Six membres du gouvernement malien de transition ont écourté mardi leur visite à Kidal, la première au niveau ministériel dans ces bastions des ex-rebelles indépendantistes Touareg depuis le coup d'état militaire d'août dernier. D'abord prévue lundi et mardi, la visite n'aura finalement duré que 24 heures. Elle reste une visite symbolique et aura permis de faire avancer les processus de paix, a indiqué sous couvert d'anonymat un ministre faisant partie de la délégation. Toujours au Mali, un gendarme a été tué lundi dans l'attaque d'un poste de contrôle par des hommes armés des Goundan dans le nord du pays, en proie aux violences djihadistes, a-t-on appris des sources militaires. Par ailleurs, les élèves maliens ont effectué lundi leur entrée à l'école alors que les autorités annoncent la reprise dès mardi des activités culturelles, artistiques et touristiques suspendues en raison de la pandémie du nouveau coronavirus. Les forces armées centrafricaines ont tué 44 rebelles qui tentaient d'imposer un blocus de la capitale et de renverser le régime du président Faustin Archange Touadéra, a affirmé lundi le gouvernement. Un tribunal nigérian a acquitté lundi 4 des 6 manifestants arrêtés en novembre dernier pour avoir protesté devant l'Assemblée nationale d'Abuja, la capitale fédérale, dans la continuité d'un mouvement contre les violences policières. Toujours au Nigeria, 7 enfants et un adulte ont été enlevés dans un orphelinat près d'Abuja, la capitale, par des criminels qui ont réclamé une importante rançon pour leur libération, a-t-on appris lundi auprès de la police et de l'orphelinat. Des affrontements à la frontière entre la Somalie et le Kenya ont fait lundi, selon les sources maliennes concordantes, au moins 9 morts et des blessés de deux côtés, renforçant les tensions entre les deux États voisins. La Somalie assure que des troupes kenyanes, accompagnées des combattants somaliens entraînés par le Kenya, sont entrées dans la ville de Bulawayo pour attaquer des bases fédérales somaliennes. Nairobi nie toute implication. Le parquet guinéen a requis lundi 10 ans de prison ferme contre un monsieur Mamadi Koné, plus connu sous le nom de Madik Sans Frontières, un opposant à un troisième mandat du président Alpha Condé, poursuivi pour atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation et incitation à la révolte. Le jugement a été mis en délibéré au 8 février prochain. Le procès était ouvert le 18 janvier dernier.
Radio Vatican, France-Afrique, Camille Moukosso.
Le premier ministre de la République démocratique du Congo, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, a rencontré lundi l'ancien président Joseph Kabila à la veille de l'examen d'une motion de censure en pleine crise politique avec l'actuel chef d'État Félix Tshisekedi. Proche des messieurs Kabila, le premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a quitté dimanche Kinshasa pour Lubumbashi où il a rencontré lundi l'ancien président, lui-même replié dans son fief du Katanga depuis mi-décembre, a indiqué un ministre pro-Kabila sous couvert d'anonymat. L'ex-rebelle sierra-léonin Jibril Massakwa, arrêté l'an dernier en Finlande pour les abus pendant la guerre civile au Libéria, a été inculpé lundi et va être jugé pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité, ont annoncé les autorités judiciaires. Un parquet algérien a requis 3 ans de prison ferme en appel contre Walid Keshida, un jeune militant poursuivi pour avoir publié des mèmes moquant les autorités et la religion sur Facebook, a indiqué lundi son avocat.
Vous écoutez Radio Vatican, c'est l'heure du magazine.
Notre magazine sur l'économie avec Françoise Niamien.
Notre magazine du jour, consacré à l'économie, porte sur le rôle important des grandes villes du continent africain dans le renforcement des investissements intra-africains. La Banque africaine de développement, BAD, qui a fortement contribué à la création de la zone de libre-échange continentale africaine, ratifiée par 36 pays africains à travers des appuis multiformes aux pays membres régionaux et qui s'implique pour sa mise en œuvre opérationnelle, souligne dans sa revue annuelle 2019 de l'efficacité du développement ce rôle important de ces grandes villes africaines. Casablanca au Maroc, Johannesburg en Afrique du Sud, Lagos au Nigeria, Le Caire en Égypte, Nairobi au Kenya sont les villes africaines les plus attractives en termes d'investissement intra-africain selon la revue annuelle de l'efficacité du développement publiée en décembre 2020. Ces 5 grandes villes se distinguent par le dynamisme de leur marché de consommation et de leur marché de travail, précise l'étude de la Banque africaine de développement qui souligne qu'elles sont à la fois source et destination d'investissements intra-africains. Les grandes villes africaines sont en général des pôles d'attraction économique et de production de richesses. C'est le cas de la capitale économique du Nigeria, Lagos, qui, avec ses quelques 17 millions d'habitants et sa zone de libre-échange de Victoria Island, est devenue un véritable carrefour d'échanges entre l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et l'Afrique australe. À elle seule, la capitale économique du Nigeria disposait en 2017 d'un produit intérieur brut estimé entre 90 et 100 milliards de dollars. D'autres grandes villes africaines telles que le Caire, Nairobi, Johannesburg, Mombasa, Kinshasa, Abidjan ou Dakar contribuent fortement aux échanges économiques intra-africains en favorisant la libre circulation des biens et des personnes dans leurs espaces sous-régionaux. Les ressortissants de plusieurs pays d'Afrique australe se sont par exemple installés à Johannesburg, capitale économique de l'Afrique du Sud, d'où ils transfèrent vers leur pays d'origine des capitaux injectés dans les économies nationales. Pour les pays africains de l'Interland, les grandes villes côtières du continent représentent la porte de transit des biens de consommation, des matières premières et des produits manufacturiers. Avec environ 100 millions d'habitants, l'Éthiopie assure près de 2/3 de ses importations à partir de la ville portuaire de Djibouti. Le Mali, autre pays continental, dépend pour une grande partie de ses importations et exportations des ports de Dakar, d'Abidjan et Conakry. Selon la revue de la Banque africaine de développement, l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine devrait permettre d'accélérer les échanges à l'intérieur du continent, notamment à travers la suppression de 90% des taxes douanières sur les 15 prochaines années. Les échanges intra-africains sont estimés actuellement à près de 16%, alors qu'ils représentent plus de 60% sur les continents asiatiques et européens. Avec plus d'un milliard de consommateurs et un PIB combiné d'environ 3 000 milliards de dollars américains pour le continent, la nouvelle zone de libre-échange continentale crée le deuxième plus vaste marché mondial derrière le partenariat régional économique global en Asie et dans le Pacifique. Soutien actif de la zone de libre-échange continentale africaine, la Banque africaine de développement appelle les États africains à lui donner toutes les chances de succès à travers des échanges frontaliers par le renforcement des corridors transfrontaliers. La Banque africaine de développement a apporté un don de 5 millions de dollars américains à l'Union africaine pour mettre en place le secrétariat permanent de la zone de libre-échange continentale africaine, dont les bureaux se trouvent dans le quartier des affaires d'Accra, la capitale ghanéenne. Le Sud-Africain Wamkele Mene a été élu premier secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine le 10 février 2019 lors du 33e sommet de l'Union africaine. Outre un appui direct à la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine, la banque contribue à l'intégration africaine dans chacune de ses 5 grandes priorités: nourrir l'Afrique, éclairer l'Afrique et l'alimenter en électricité, industrialiser l'Afrique, intégrer l'Afrique et améliorer la vie des populations africaines. Signe de l'importance de l'intégration africaine pour la banque, cette thématique a été choisie comme thème central de la revue annuelle L'efficacité du développement 2020 qui détaille chaque année les objectifs de la banque, son portefeuille et ses performances.
Place à la rubrique sur l'œcuménisme et dialogue interreligieux avec Marie-Josée Mwando-Boisboileau.
Commençons notre rubrique sur l'œcuménisme et le dialogue interreligieux par la prière œcuménique mondiale qui montre que nous sommes un seul monde et une seule famille humaine. À la clôture de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, lundi 25 janvier, le Conseil œcuménique des Églises a organisé sa toute première prière œcuménique mondiale en ligne, attirant des participants du monde entier qui se sont réunis dans un esprit d'espoir. Le secrétaire général par intérim du Conseil œcuménique des Églises, l'Église, le père Johann Sauka a souhaité la bienvenue aux participants, soulignant que le format en ligne permettait aux gens de prier ensemble où qu'ils se trouvent. La pandémie mondiale de Covid a montré combien nous sommes fragiles en tant qu'êtres humains, mais aussi combien nous pouvons être créatifs et résistants lorsque nous prions et travaillons ensemble pour apporter de l'espoir et un sentiment de sollicitude les uns envers les autres et envers la famille écuménique au sens large. Nous sommes un seul monde et une seule famille humaine, a-t-il notamment déclaré. Le thème de cette année, avec des documents préparés par la communauté de Grand Champ en Suisse, était « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance ». La prière est l'un des fruits que nous portons lorsque nous demeurons dans l'amour du Christ, a relevé le père Johann. Lorsque nous nous réunissons pour prier, nous le faisons pour affirmer et exprimer notre vocation commune à prier pour l'unité des chrétiens et la réconciliation au sein de notre famille humaine. Dans un message pastoral, Madame Agnès Sabom, modératrice du comité central du Conseil œcuménique des Églises, a indiqué que nous sommes appelés en tant que chrétiens et église à passer de la séparation à la pleine communion dans la foi, la vie, la mission et le témoignage, une communion visible. C'est la vocation fondamentale du Conseil œcuménique des Églises, a-t-elle déclaré, mais nous ne répondons à cette vocation qu'en priant ensemble pour la réalisation de cet appel et de cette vision. Sa béatitude, l'archevêque Anastasios d'Albanie, a parlé de l'importance du témoignage commun. Il apparaît clairement qu'il ne suffit pas de recevoir et de bénéficier des bénédictions et des dons divins, il est certain que nous sommes également obligés de partager sa vérité et son amour avec les autres. Le cardinal Kurt Koch a réfléchi sur Jésus en tant que racine et soutien de toutes les églises et de différentes traditions chrétiennes. Au cœur même d'un écuménisme fécond, il y a la prière. Nos relations écuméniques indiquent les voies qui peuvent mener au rapprochement, à la coexistence pacifique, à la coopération et à la fraternité entre toutes les personnes. La semaine de prière pour l'unité des chrétiens est organisée conjointement par le Conseil œcuménique des Églises et le Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens depuis 1968. Au cœur de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, célébrée chaque année du 18 au 25 janvier, l'Allemagne a inauguré dimanche 24 janvier l'année de l'écuménisme. L'événement s'est officiellement ouvert dans l'église Saint-Pierre de Hambourg avec un moment de prière organisé par l'Association des églises chrétiennes d'Allemagne, présidée par l'archiprêtre Radu Constantin Miron, qui, dans son homélie, a souligné que pour les chrétiens, la foi et l'action sont inséparables. Pour preuve, l'archiprêtre a cité la devise choisie pour la semaine de prière pour l'unité des chrétiens de cette année, à savoir « Demeurez dans mon amour et vous porterez beaucoup de fruits, inspiré par l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 15, versets de 5 à 9. Porter du fruit signifie mener une action très concrète envers son prochain, mais aussi initier la croissance dans l'Esprit Saint qui sous-tend cette action. L'évêque auxiliaire de Hambourg, Monseigneur Horst Herbert Lein, a pour sa part souligné comment un tel moment de prière nous encourage et nous fortifie à continuer sur la bonne voie vers l'unité, surtout en ce moment alors que la pandémie de COVID-19 obscurcit le point de vue de beaucoup d'autres choses. L'écuménisme nous aide à nous regarder les uns les autres. Lorsque la diversité des églises se réunit pour un service écuménique, l'écuménisme est vivant, a ajouté le pasteur ou ONM, président de l'Association des églises chrétiennes d'Allemagne de Hambourg. Une prière pour le Mozambique. Pour une paix durable, pour que la violence cesse, pour la guérison des blessures causées par la colonisation et les guerres civiles, pour que les chefs religieux recherchent la paix. La conférence des églises de toute l'Afrique, CETA, le demande, lançant un appel à la famille écuménique.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est par ici que nous mettons un point final à notre programme d'aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe du service Français-Afrique des Radios Vatican, Camille Moukosso vous remercie de votre écoute et de votre fidélité. Le prochain rendez-vous, c'est pour demain. Même heure, même fréquence, même radio.
œuvres et mon témoignage. Par mes choix et par ma foi, je veux annoncer, Seigneur, ton évangile. Annoncer, Seigneur, ton évangile. Comme Pierre, comme Paul, sur les routes de Galilée, je veux aussi proclamer que ton règne est arrivé. Appeler et crier à temps et à contre-temps, que le jour du salut s'est levé. Et mon témoignage, par mes choix et par ma foi, je veux annoncer, Seigneur, ton évangile. Par ma vie et mes paroles, par mes œuvres et mon témoignage, par mes choix et par ma foi, je veux annoncer, Seigneur, ton évangile. Sous le souffle de l'Esprit, le cœur libre et confiant, avec la foi de l'enfant, j'annoncerai à pleine voix que tu es mon salut et mon sauveur, et que la vie sans toi est sans joie. Oui, Seigneur, ce que tu attends de moi, ce n'est pas tant de parler que de te révéler à travers mes actes, par mes engagements, par ce que je fais, par l'amour concret que je montre envers mes frères. Oui, c'est par cela que je vais t'annoncer.
Par ma vie et mes paroles.